Il échange accidentellement 50 millions d'USDT pour seulement 36 000 $ sur AAV. Ça s'est passé hier et on voit ça immédiatement. Que s'est-il passé sur cette transaction folle qui a eu lieu hier avec 50 millions de $ d'USDT qui ont été échangés contre seulement 36 000 $ de AAV sur la blockchain principale Ethereum? Non, nous ne sommes pas le 1er avril et on part pour l'émission du vendredi 13 mars 2026. Donc dans la pratique, c'est quelque chose qui est censé ne pas pouvoir arriver. On a un swap qui est passé notamment par CoSwap et un agrégateur tiers, si je dis pas de bêtises, autour de LlamaSwap. Et derrière, un utilisateur a accepté, malgré le disclaimer et le pop-up qui est apparu à plusieurs reprises à ce moment-là, d'échanger 50 millions pour 36 000 $ à peine en AAV, puisque le but était d'acheter à la base 50 millions en AAV. Et donc aujourd'hui, quand on creuse un petit peu plus, et notamment ce post de Vadim sur X qui faisait écho à celui précédemment de 0xNGMI qui, il y a un an, avait fait un très long post autour du sujet, c'est potentiellement, et là aussi ça restera à l'état de spéculation puisque derrière c'est des procédés quand même qui sont assez obscurs, si toutefois c'était ça qui s'était passé, pour blanchir de l'argent et tout simplement au travers d'un bot MEV, donc Maximum Extraction Value, qui va payer énormément, j'essaie de vous simplifier le truc, de fees pour essayer de faire passer une transaction au moment où il détecte qu'une transaction est en train de passer et pour essayer comme ça de récolter un maximum de frais. Avec là, pour le coup, sur ce montage en particulier, 29 millions de $ qui ont été empruntés à Morpho dans le même bloc et ils ont empoché une différence de 9,9 millions. Donc on va dire entre 30 millions qui ont été empruntés et immédiatement comme ça, en un claquement de doigts, 10 millions de frais ont été générés par cette transaction. Donc est-ce que c'est une transaction de blanchiment ? Ça, on le saura jamais, mis à part s'il y a une enquête avec les enquêteurs on-chain type ZackXBT, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a effectivement une personne qui a swappé 50 millions USDT pour 36 000 à peine AAV, 36 000 $ équivalent. Ça laisse se poser également la question de s'il n'y a pas suffisamment de circuit trigger aujourd'hui autour de tout ça. Donc vraiment plus que jamais, il va falloir faire attention, notamment pour les utilisateurs de la DeFi. Après, bien entendu, nous ne sommes que des tout petits poissons dans cet océan et on n'a pas des 50 millions pour notre part. En tout cas, j'espère que si dans la communauté, il y en a qui ont 50 millions, que vous préparez un petit peu plus en amont vos transactions. Mais toujours est-il, ça laisse se poser quand même pas mal de questions d'un point de vue à la fois éthique, d'un point de vue des circuits triggers ou des disclaims qui pourraient avoir lieu dans la DeFi. Et je crois avoir vu passer un poste de marque comme ça qui rappelait et qui remet à chaque fois l'église au centre du village, que quelques mois, peut-être quelques années en arrière, il y avait maximum 30% de décalage au niveau du slippage, c'est-à-dire entre ce que vous acceptez de payer et ce que vous pouvez recevoir à l'arrivée pour annuler la transaction, si jamais on était au-delà de 30%. Là, on est sur du 99,99 bien tassé. Donc, effectivement, ça laisse se poser la question de comment c'est possible, tout simplement, de valider une telle transaction. Également, avec Alcoin France qui révélait que BlackRock lance aujourd'hui son ETF Ethereum avec staking, avec des frais de gestion de 0,25% identique à l'ETF ETHA, réduction à 0,12 la première année ou jusqu'à 2,5 milliards d'actifs en encours. L'ETF qui permettra d'exposer les investisseurs à Ethereum tout en capturant les revenus du staking. Et on a immédiatement Coinbase qui se sont félicités puisque bien entendu ils sont au milieu du montage, donc encore une belle plus-value pour Coinbase. On part du côté également toujours de la DeFi avec Paul Frambot, le CEO de Morpho, qui parle de l'arrivée des taux fixes du côté de la DeFi. Donc ça devra arriver incessamment sous peu et ça permettra à pas mal de personnes au travers du temps d'ajuster au mieux leurs risques et de ne pas avoir de surprise avec des taux qui font énormément le yo-yo. On terminera avec la dernière mais pas la moins bonne, et c'est Swissborg qui obtient l'approbation MiCA auprès de l'AMF française. Donc très très bonne nouvelle, puisque MiCA, en plus du PSAN 2 renforcé, etc., aujourd'hui c'est le plus haut standard en Europe qui leur permet à la fois d'opérer dans toute la zone européenne, mais également d'être le plus carré possible par rapport aux personnes en France. Donc très très bonne nouvelle. Et on en en reparlera très prochainement puisqu'il y a de belles choses qui arrivent. Et je vous rappelle que récemment, au niveau des infos de ce qu'ils ont lancé, il y a la carte bleue. D'ailleurs, je crois qu'on peut avoir une carte virtuelle d'ores et déjà. Et il y a également le système de time lock du côté de l'application pour les personnes qui seraient désireuses de bloquer les virements importants pour une certaine période de temps, en plus de toutes les keynotes actuellement sur lesquelles ils ont pas mal d'annonces à venir. On était resté sur le VIX, donc autour de 30 et quelques la dernière fois, 36. C'était la borne haute où vraiment on allait déclencher les enfers si on rentrait dans cette box comprise entre 40 et 100. Le marché s'est un petit peu calmé puisque dodo, pour ne pas dire dodo la saumure, pour le coup, ceux qui ont la référence, vous êtes des kings, eh bien on a effectivement voilà, dodo qui, comme d'habitude, a lancé un peu les hostilités. Et derrière, quand il a vu les carabistouilles du marché, notamment du côté du pétrole, l'inflation qui repart, le chômage et tous les chiffres qui sont sortis un peu rouges ces temps-ci, il devait pas être très serein. Donc on a potentiellement ce conflit en Iran, et on va pas en parler plus que besoin aujourd'hui puisque tout le monde ne fait que parler de ça déjà sur les réseaux sociaux, qui est un véritable problème, et un VIX qui malgré tout reste autour de cette zone de 30. Est-ce que les marchés sont mûrs à point pour véritablement aller se faire peur, ou est-ce que finalement l'économie américaine est suffisamment résiliente? En tout cas, on a les taux longs du côté des États-Unis, le 30 ans aujourd'hui, qui flirte à nouveau avec les 5%, donc un marché qui continue de jouer défensif, et c'est exactement ce qu'on peut observer du côté du dollar américain, avec de nouveau le DXY qui vient coller autour des 100 points. Donc là, ça fait pas mal de temps, d'un point de vue technique, qu'on est en train d'essayer de poser un bottom pour le dollar, et c'est très certainement ce qui nous attend pour cette année 2026, et qui colle plutôt pas mal au scénario qu'avaient énoncé les JP Morgan, les Goldman, etc., en disant 2020 à 2025, ça a été la grande récréation, il n'y a jamais eu autant de pognon sur le marché. On l'a vu, nous, en 2020-2021, pour la crypto, ça a été complètement fou. 2024-2025, ça a été plutôt porté que sur Bitcoin pour la crypto et sur l'IA, puis par la suite les métaux précieux. Là, aujourd'hui, peut-être que 2026 à 2030, on va revenir à des indices qui vont délivrer beaucoup moins, à une stagflation du côté des États-Unis, ce qui fait que l'économie s'est d'ores et déjà mise au pas. Du côté des barils, on est autour de 96$ pour l'US Oil et l'UK Oil, autour de 100-101, donc statu quo, une amplitude de bougie hebdo entre 80 et 120 le baril. C'est rarissime, et je crois que dans l'histoire de l'observation boursière des barils de pétrole, justement, c'était la plus grosse amplitude jamais relevée en hebdomadaire. La bonne nouvelle pour nous, si le dollar augmente, c'est que le CW8 et le WPEA ont rattrapé un petit peu leur retard, mais surtout ça permet d'absorber le fait d'avoir un S&P 500 et un Nasdaq qui, eux, déroulent à la baisse un petit peu. On a le S&P qui a clôturé hier à moins 1,52 et le Nasdaq quasi 2 points, pendant que le world, coté en euros, est en train de se rééquilibrer du fait que le dollar remonte. Donc je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de raconter, mais ça nous permet quand même d'avoir un certain amortisseur pour ceux qui sont positionnés notamment sur la zone géographique européenne en euros. Le gold, pour sa part, recule légèrement depuis deux semaines, 5090, donc on n'arrive pas à reprendre les points hauts des 5000 quasi 600 dollars l'once pour le gold depuis à peu près un mois. Ceci étant dit, c'est une consolidation haute, bien entendu. 2400 milliards pour un marché crypto qui a souffert, et qui a souffert longuement et en amont du reste des marchés. Là aussi, on est plutôt en train d'essayer de construire des points bas, mais modulo le fait qu'on peut avoir en effet des petites carabistouilles au niveau du marché américain. Donc toute notre année 2026 finalement et notre ère de jeu pour un DCA peut-être parfois plus ou moins agressif en fonction de votre appétence au risque du côté du marché crypto. Et comme d'habitude, on n'essaie pas de révolutionner la roue, on essaie d'aller vers ceux qui fonctionnent, en tout cas en apparence pour l'instant. Pareil pour le crypto total 2 des altcoins, qui a défendu pendant un mois la moyenne mobile 200 semaines à 900 milliards, et pour l'instant ça se passe plutôt pas mal, avec une dominance de stablecoin qui recule sur cette semaine de 0,12 à 0,11. Le mieux qui puisse nous arriver à court terme serait de revoir ce support autour de 0,09. Là aussi, les oscillateurs sont en train de fléchir, ce qui voudrait dire que, eh bien, malgré le ralentissement qu'on voit d'un point de vue économique pur et dur, notamment peut-être du côté des États-Unis, avec malgré tout une économie qui se démontre assez résiliente, on a les cryptos qui sont en train de petit à petit démontrer malgré tout qu'elles sont là, qu'elles existent, et que parfois ça peut être un choix judicieux, notamment du côté de Bitcoin, d'en avoir un petit peu comme ça dans des portefeuilles avec des gérants institutionnels aujourd'hui qui conseillent d'un point de vue assez global finalement, pas patrimonial, environ toujours 1 à 3% dans un portefeuille bien diversifié. Donc le Bitcoin à 71K, on a un blocage entre 74 et 75, 76. Si on arrive à reprendre cette zone des 76, on visera les 83, 84 et ensuite plus tard autour de 100 000. Donc on a quand même encore de beaux jours devant nous, je pense, pour continuer cette petite accumulation. Et attention aux faux départs et aux faux amis lors des différents bear markets, puisque ça prend toujours un petit peu de temps. Ceci étant dit, voilà, on était déjà sur un moins 50% bien tassé, comme on l'a vu dans les dernières émissions. Après, à vous de voir quel risque vous voulez allouer au marché crypto par rapport à la période qu'on est en train de traverser. 2100 pour Ether, lui aussi suit finalement ce que fait Bitcoin. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir de l'Ether, du Solana, du Hype en portefeuille? Ça aussi, comme d'habitude, ça va être à vous de gérer votre diversification et quel niveau de risque vous êtes prêt à accepter. En tout cas, pour la seconde crypto-monnaie du marché, on est au bon endroit, au bon moment. On a tenu entre 1750 et 2150. On a un petit cloisonnement du prix. On est sous toutes les moyennes mobiles, donc on reste dégradé à court et moyen terme. Au long terme, bien entendu, on est dans une énorme consolidation qui, si plus tard elle sort avec vélocité de cette zone des 5000$, pourrait donner quelque chose de très positif. On a Circle qui, du côté des Treasury Company et tout ce qui est lié de près ou de loin à la blockchain, comme des Coinbase, etc. Vous savez que, voilà, au niveau de l'onglet de notre analyse de fin d'émission, eh bien, tout ça est réuni finalement entre les minières et les sociétés crypto, si on peut les appeler ainsi. Circle qui, depuis 5 semaines, nous fait du vert, depuis la touchette autour de 50$. On travaille désormais autour de 115 et c'est une zone de résistance entre 114 et 155, à voir comment ça se comportera pour la suite. Mais bien entendu, Circle qui dit USDC, qui dit les liens avec Coinbase, qui dit par capillarité les liens avec BlackRock, donc ça se passera, je suppose, plutôt pas mal pour le futur. De même que Coinbase aujourd'hui gravite pareil sur une zone de résistance entre 185 et 210$, et pour l'instant ça ne passe pas, mais on a repris sur ce mois roulant la moyenne mobile 200 qui se trouvait à 170 et le support a été défendu autour de 140 à 150$. Pareil, les oscillateurs sont en train de démontrer petit à petit, si on avait besoin de s'en convaincre au niveau du cours, que les vendeurs sont en train de perdre la main. Donc est-ce qu'on va vers un printemps radieux? En tout cas, ça serait un petit peu d'air qui serait offert aux crypto bros, puisque ça fait quand même un moment qu'on avait la tête sous l'eau. Côté action américaine, j'ai rien trouvé d'extraordinaire dans ma liste. On a toujours Netflix qui continue de consolider autour de la moyenne mobile 20 et 100 après avoir touché donc le 0,5 de Fibo qui était autour de 75$. Microsoft 400$, proche de la moyenne mobile 200 qui est à 378. Ça peut être intéressant aussi pour Microsoft qui a versé les dividendes hier ou avant-hier, où, enfin, voilà, on était sur les jours des dividendes pour certaines actions américaines. On a toujours le secteur défense, bien entendu, pour l'Europe et notamment le CAC 40 avec Thales qui, plus 3%, est toujours dans cette énorme box au contact moyenne mobile 50, moyenne mobile 20. 26,34€ pour FDJ. Ça spécule pas mal, notamment autour de l'arrivée de la Coupe du Monde. Voilà, donc après, on a eu une box ici qui était intéressante entre 22€ et 24€. Est-ce qu'on arrivera à franchir la moyenne mobile 50 à 27,50€ et reprendre la fameuse zone des 30€ pour aller titiller la 200 semaines à 33 et ensuite la borne haute du range autour de 40€? En tout cas, le risque récompense ici était pas dégueulasse d'un point de vue justement de ce qu'on avait étudié précédemment et du fait qu'on était revenu pas très loin des prix d'introduction de FDJ. Air Liquide qui continue de faire le yo-yo. Alors c'est vrai que d'un point de vue performance pure, ça fait pas mal de temps qu'on est dans un énorme range également depuis quasiment 2023. Donc voilà, 3 ans plus tard, c'est une action qui a fait le yo-yo entre 152€ et 187 en haut et qui, pour ceux qui en possèdent suffisamment, donc toutes les 10 actions et suffisamment dans le temps tous les 2 ans, bénéficient de très larges bonus. Donc entre ça, les dividendes, voilà. Est-ce qu'il y a des portefeuilles qui préfèrent justement avoir un truc stable qui continue de verser des dividendes et une action qui ne fait pas une grosse volatilité au long terme? Ou est-ce qu'on veut aller chercher plus de volatilité, plus de risques, etc.? Comme d'hab, c'est un petit peu cette fameuse asymétrie entre celui qui va vouloir prendre énormément de risques et celui qui essaie tout simplement de stabiliser un portefeuille au long terme. Tao BitTensor qui se comporte plutôt pas mal à court terme. Depuis le double point bas à 144$, on est de retour à 230. Moyenne mobile 20 à 255, 50 à 317 et la 100 période autour de 360$. Donc là aussi, pour un actif lié à l'IA et qui a été plébiscité par la cryptosphère, ça ça se passe plutôt pas mal. On a Sui également qui, depuis la touchette de son support 78 centimes, de retour à 1$. Donc voilà, on a des bottoms en devenir sur bon nombre d'altcoins et de tokens. C'est pas pour autant qu'il faut se précipiter sur n'importe lequel. Ondo également pour tout ce qui est RWA. Donc on avait eu une salamèche il y a un mois et demi autour de 20 centimes. On est de retour à 26-27. Ça avait creusé très très bas puisque par rapport à un ATH qui était à 2,15$, on a quand même reculé pour Ondo de 90-91%. Donc voilà, c'est là aussi toute la difficulté de choisir les bons candidats pour la suite. AAV qui se comporte pas si mal au vu de l'actu pour l'instant, 114-115, il essaie de défendre. Solana, 88$, pareil, on a défendu les 78-80. Donc le marché qui continue de surveiller malgré tout ses supports avec un RSI qui était revenu aussi bas qu'en 2022 et un MACD petit à petit, comme on l'a vu sur bon nombre d'autres actifs tout à l'heure, crypto-actifs d'ailleurs, qui est en train de fléchir, de faiblir, en tout cas sur cette force vendeuse à court terme. Et on clôturera donc avec les taux du Japon qui continuent de monter frénétiquement, comme les taux longs des États-Unis d'ailleurs, 3,11 pour le 20 ans et 3,52 pour le 30 ans, avec des actions qui là aussi sont assez disparates. On a Nintendo qui continue de nous faire une bougie bien vénère pour le coup. On est passé de 8427 à 10220. Donc là aussi, je vous avais dit que je ne l'avais pas pris, mais on avait bel et bien détecté une pattern qui n'était pas dégueulasse. C'est 22% en hebdomadaire. On peut voir d'ailleurs que les volumes sont là et il y a pas mal de spéculations, notamment, je crois, autour du dernier jeu qui est sorti, Pocopia, qui est en train de faire vendre des camions de Switch 2, etc. Donc il suffit, voilà, d'un seul jeu, d'un seul mood, d'une seule trend, et de temps en temps, le marché finit par tourner à notre avantage, exactement comme ce qu'on pourra l'attendre justement du marché crypto qui aujourd'hui, au vu de l'actualité, c'est pas si mal comporté après un moins 50% et plus. Donc on se positionne bien entendu déjà potentiellement pour ceux qui le veulent autour de cette zone comprise entre 2000 et 2500 milliards, tout en ayant bien en tête que si ça se gâtait, on peut tout à fait revoir un marché crypto autour de 1500 milliards qui correspondrait plus ou moins à un Bitcoin autour de 40 000 $. Pour moi, c'est voilà le maximum d'amplitude qui puisse se passer au cours de 2026 en fonction de bon nombre d'épisodes et de scénarios différents qui pourraient se passer, eux, à la fois pour du côté du marché américain, mais aussi de cette géopolitique macro-mondiale qui devient très, très difficile à prévoir. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouvera que lundi et continuez d'être prudents. Ciao, ciao.